C'est la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
La chronique Le Bistrot du Livre en partenariat avec Cépage d'Encre en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ou plutôt, buongiorno, come stai? Eh oui, aujourd'hui, on se met à l'heure italienne, comme la Comédie du Livre de Montpellier qui, le week-end dernier, avait les auteurs italiens en invité d'honneur. Mais nous, on va pousser le voyage un peu plus loin. On va traverser la mer Tyrrhénienne et cap sur la Sicile, pour un personnage tout à fait étonnant. Un homme qui a connu un succès international à l'âge où beaucoup pensent à leur retraite. Un écrivain qui a su rester fidèle à ses origines, tellement fidèle que tous ses romans ont pour cadre sa région natale, sur la côte sud de la Sicile. Fidèle à sa langue, et c'est en partie cela qui a fait son succès. Fidèle aussi à ses amitiés littéraires, à l'un de ses maîtres en particulier, dont il empruntera le nom pour baptiser son héros. Un monsieur qui a aujourd'hui 90 ans et qui continue à tracer son sillon dans le roman noir. Un écrivain qui ne peut écrire que si la vie se fait entendre autour de lui, que par exemple si ses petits-enfants viennent jouer dans son bureau. Un homme qui a horreur du silence et dont la vie à elle seule mériterait un roman.
Son nom, comment se chiama? Andrea Camilleri.
Oui, on pourrait dire Camilleri Andrea, il se nomme. Vous allez comprendre pourquoi. Il est né en 1925 à Porte Empedocle, sur la côte sud de la Sicile. Étudiant à Palerme, il se passionne d'abord pour la poésie. Il remportera même un prix au nez à la barbe d'un autre candidat, un certain Pier Paolo Pasolini, le cinéaste intellectuel qui a bousculé l'Italie des années 70 et qui est mort assassiné sur une plage à cause, dit-on, de ses amitiés homosexuelles. Après la poésie, Camilleri découvre le théâtre et deviendra metteur en scène, théoricien du théâtre et enseignant. Sa vie est toute tracée, la scène et l'université. Ce serait trop facile. À l'approche de la soixantaine, ce grand lecteur de polar, grand admirateur du commissaire Pepe Carvalho, le catalan, le flic de Barcelone, amoureux de bons petits plats, de musique et de filles, le personnage créé par Manuel Vázquez Montalbán, Camilleri se lance à son tour dans le noir et crée un personnage qu'il baptisera Montalbano, en hommage à son maître en la matière. Un commissaire atypique, ce Montalbano, et là, on sent l'homme de théâtre derrière l'écriture. Le personnage est complexe, un peu bousculé dans ses amours, un peu seul, qui n'aime pas se voir vieillir, amoureux des petits plats aussi, et toujours, toujours en proie au doute.
En juger par la façon dont l'aube se présentait, on pouvait être sûr que la journée serait bancroche, c'est-à-dire faite tantôt d'un déchaînement de la canicule, tantôt de petites crises de pluie glacée, le tout assaisonné de soudaines bourrasques. Une de ces journées où ceux qui sont sensibles aux brusques changements de temps et en souffrent dans leur sang et leur coucourde, ceux-là sont capables de se mettre en changer d'opinion et de direction. Le commissaire Montalbano appartenait depuis toujours à cette malheureuse catégorie humaine. Cette fois encore, le commissaire ne démentit pas les particularités de sa naissance. Il avait à peine arrêté l'auto au 10e kilomètre de la provinciale Figata Fella, comme on lui avait dit de le faire. Aussitôt, lui vint l'envie de redémarrer et rentrer au village en envoyant promener l'opération.
Alors bien sûr, le commissaire Montalbano, dans sa petite ville de Vigata, va en voir de toutes les couleurs. Des politiques corrompus, des promoteurs maqués avec la mafia, un colonel nain, une prostituée flamboyante, des caches d'armes par-ci et des trafics en tout genre par-là, les sombres magouilles aussi des services secrets, on pourrait dire du classique pour le roman noir. Et le charme de Camilleri, ce qui a fait sa force et son succès, ce n'est pas tant l'intrigue, même si souvent elle résonne avec l'actualité. Par exemple, des clandestins échoués sur la plage, eh oui. Ou encore, rappelez-vous le sommet du G7 à Gênes en 2001, la mort d'un manifestant tué par la police. Et voilà notre Montalbano qui s'interroge sur le sens de son métier. Non, ce qui fait le charme de Camilleri, c'est sa langue. Un savant mélange d'italien et de parler sicilien, celui du sud, de la région d'Agrigente, le parler de Vigata, avec comme représentant le plus illustre, le célèbre Cattarella, le flic de base, celui qui est cantonné à l'accueil et qui mélange tout, les ordres et les priorités, dans une langue bien à lui.
La porte fut violemment projetée contre le mur. Montalbano ne broncha pas. C'était sûrement Cattarella qui il s'était habitué à ses entrées. « Dottori, excusez-moi, elle m'a échappé. Approche, Cattare. » Dottori, comme ce matin de bon matin, téléphona un journaliste demandant après vous, personnellement, en personne, « Moi, je voulais vous faire l'avertissement qu'il dit comme ça qu'il retéléphonerait. » Il a dit comment il s'appelait ?« Ponce Pilate, Dottori. Cattare, il y a autre chose ?»« Ah, hier soir, tardivement du soir, je vis vos seigneuries à la télévision. » Mais tu passes tout ton temps libre à regarder la télévision ? Pour que non, Dottori, ce fut un hasard. Qu'est-ce que c'était ? Une rediffusion de quand j'étais nue ? Oh que non, Dottori, habillé vous étiez. Je vous vis à 00h30. Vous étiez sur le quai et vous disiez à deux des nôtres de revenir immédiatement en arrière, que vous seriez occupé de tout. Comme vous étiez commandanteur, Dottori.
Et c'est ça. La langue de Camilleri, du pas si simple en veux-tu en voilà, et des inversions verbe-sujet qui vous font dire au téléphone « Commissaire Montalbano, je suis ». Et ça, c'est la trouvaille de l'écrivain, bien sûr, d'être au plus près de ce phrasé typique de ce coin de Sicile, mais aussi en France, la trouvaille de son traducteur, d'avoir inventé, disons, un français adapté, d'avoir trouvé une musique qui colle à cette langue. Le traducteur s'appelle Serge Quadrupani. Et c'est lui qui, au début de chaque livre, dans sa préface, explique sa méthode et ce qui a contribué au formidable succès d'Andrea Camilleri en France depuis une vingtaine d'années.
Une bonne part de cette réussite tient à la langue si particulière qu'il emploie. La difficulté principale pour le traducteur se situe au niveau de l'italien sicilianisé. Il est truffé de termes qui ne sont pas du pur dialecte, mais plutôt des régionalismes.
Tagliare pour guardare.
Regarder, par exemple. Alors j'ai donc placé ça en certains endroits des termes du midi. Cela apporte un parfum du sud. J'ai par ailleurs choisi le parti de la littéralité, quand il s'est agi de rendre perceptibles certaines particularités de construction des phrases. Par exemple, inversion du verbe et du sujet.
Montalbano sono.
Montalbano, je suis. Ou ce curieux emploi du passé simple.
C'est fou.
Qu'est-ce qu'il fut ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui traduit bien l'emphase sicilienne. Ou bien encore, l'usage de la préposition « à » avec des verbes directs et le recours à la forme pronominale « se faisant un rêve ». Enfin, j'ai tenté de transposer certaines déformations qu'impose Andrea Camilleri pour faire entendre la prononciation de sa terre.
« Pensare »
au lieu de
« pensare »
« penser » a été traduit par « pincer ».
« A ricordarsi »
au lieu de
« ricordarsi »
a été traduit par « s'arrappeler ». Choix discutable, mais qui me paraît encore la moins mauvaise solution.
Oui, une gymnastique qui a fait donc le succès du Sicilien en France et qui, je vous le disais, vous amène à parler comme Montalbano à la fin du livre. Le bistrot du livre, on vous présente, on vous a représente même. Mais Camilleri, ce ne sont pas que les enquêtes de Montalbano. Il y a aussi une foultitude de romans qui balaient d'autres genres, des portraits psychologiques pour des personnages qui portent en eux de lourds secrets, comme dans « Un samedi entre amis », l'histoire de trois couples et de leurs enfants, bonne bourgeoisie romaine, réussite apparente, bonheur de façade, mais car derrière chaque personnage, il y a des lézardes, des fissures, des non-dits, des fautes ou des égarements de jeunesse que l'on croit oubliés, enfouis, mais qui bien sûr ressurgissent et risquent de faire tomber tout le bel édifice que l'on s'est donné tant de mal à construire. Camilleri, ou le jeu des apparences et des faux-semblants qui régissent cette bourgeoisie-là. Ainsi, dans « Un samedi entre amis », Gianni, homosexuel, qui après de longues années de silence, réapparaît devant Matteo, homme prospère, marié, et qui croyait avoir balayé depuis longtemps l'aventure qu'il a eue à la fac avec son ami. Sauf que...
Pourquoi t'es-tu décidé à m'appeler ? Pour la première fois, son visage s'est assombri. Il hésite, puis se décide. J'ai reçu une lettre anonyme. Et tu t'arrêtes à ça, moi, j'en reçois des dizaines. Elle contenait une photo. Un courant électrique secoue Matteo de la tête aux pieds. Pendant que... Oui, oh merde. La sueur l'inonde. Cette affaire peut le perdre. Anna demanderait le divorce aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mais enfin que je me souvienne, on ne s'est jamais pris ou fait prendre en photo pendant que... On nous a photographiés à notre insu. Excuse-moi Gianni, pourquoi l'a-t-on envoyé à toi? Tu n'as jamais caché tes préférences? S'il s'agit d'un chantage, c'est moi qui aurais dû la recevoir. Gianni ne répond pas, glisse la main dans sa poche, en sort une enveloppe, l'ouvre, prend la photo, l'attend à Matteo, qui la regarde et pâlit. C'est pire que ce qu'il craignait. Dire que cette tuile lui tombe sur la tête quand il a enfin conquis la position qu'il briguait. Qui peut avoir intérêt à ressortir cette vieille histoire?
Et bien évidemment, cette photo, cette résurgence du passé, va faire s'écrouler tout ce beau décor, tous ces personnages qui, chacun à leur manière, s'étaient construit une réputation sur la base de mensonges et finissaient eux-mêmes à croire à leur histoire. Ça pourrait s'appeler le charme discret de la bourgeoisie, un portrait féroce à la Buñuel. On vire davantage dans le noir profond de l'âme humaine. Il y a du Cronenberg chez ce monsieur. Andrea Camilleri a se plongé sans hésiter dans ses livres, ça vivifie comme un bon bain, ça vous emmène au cœur de la Sicile comme un avant-goût de vacances, mais qu'on ne s'y trompe pas, derrière la carte postale, il y a souvent, allez, presque toujours, du sordide, le côté sombre de l'humanité. Et c'est vrai que lorsqu'on parle Sicile à un romancier, on pense souvent à l'ombre de la mafia, un sujet que Camilleri s'est toujours bien gardé d'aborder de front. Et il a, sur le sujet, une explication on ne peut plus claire. C'est une question à laquelle je tiens à répondre.
Che la mafia ci sia, io credo di dirlo in ogni romanzo che scrivo. Quindi
je crois que la mafia est dans chacun des romans que j'écris. Je ne fais ni un refoulement ni une omission. C'est un bruit de fond, un dérangement de fond.
Io credo che qualsiasi scrittura letteraria.
Je crois que toute écriture littéraire
affronti dei personaggi di mafia
qui traite de personnages de la mafia
l'innobilita.
Les ennoblit. Andrea Camilleri, idéal à découvrir cet été ou redécouvrir avec plus de 50 livres à son actif. Voilà pour le chapitre sicilien. Sur le comptoir des livres, un titre à recommander, Françoise ?
Oui. Un livre parce que je vous remets le décor. C'était le dimanche 29 mai sur la Comédie du Livre à Montpellier. Il est là, auteur en séance de dédicace, auteur aligné de l'autre côté de ses livres, comme des dizaines d'autres. Il est là, très tiré, fatigué au présent par une insidieuse maladie. Il est là, regard engagé et voix chaleureuse. Celui que j'aime voir entendre dans des films ou à la radio depuis des années. Il est là, fatigué et fougueux par la vie qu'il aime tant, par sa vie qu'il décrit comme un combat de boxe. 15 rounds. C'est le titre du dernier livre de Richard Boringer. On pourrait dire qu'il s'y raconte. Il nous y confie ses routes, déroutes, chemins nocturnes ou places au soleil. Il s'y raconte, en nous invitant à connaître celles et ceux qu'il a détestés, admirés, suivis, auprès de qui il a appris. Il nous ouvre les coulisses de sa vie, cette vie qui ne lui a pas toujours fait que des cadeaux, celles et ceux qui ont semé sur ses chemins des petits cailloux multicolores ou des gros blocs de roc. Un livre impossible à lire sans entendre la voix de Richard Boringer, mais ça ne gâche rien, croyez-moi. Une voix, des lignes, un rythme, tout cela transpire l'humanité, l'honnêteté, l'amour dans la vie, l'amour de la vie. Donc 15 rounds de Richard Boringer chez Flammarion.
Richard Boringer, salut l'artiste. Et de mon côté, un nouveau titre de Peter May, un auteur écossais à lire de toute urgence. Il m'avait épaté avec L'île des chasseurs d'oiseaux. Il revient avec Les fugueurs de Glasgow, un roman qui vous prend aux tripes. L'histoire de 5 copains partis à l'assaut de Londres dans les années 60 avec leur groupe de Zik. C'est l'époque de Radio Caroline, la radio pirate, le début des Beatles. On va même croiser John Lennon, si. Le temps des rêves et de la liberté made in England. 50 ans après, les survivants se retrouvent avec leur vieillesse, leur cancer, leur désillusion ou leur alcoolisme, mais décident, vaille que vaille, de retourner à Londres pour trouver la clé d'un mystère qui a hanté leur vie d'adulte. C'est totalement déjanté, c'est noir et bourré d'humour, c'est un road movie qui remonte le temps, avec à chaque page une belle dose d'humanité, mais aussi d'égoïsme et de cynisme. Très bien traduit par Jean-René Dastugue. Les Fugueurs de Glasgow de Peter May au Rouergue noir, à écouter de préférence avec un petit coup d'Abbey Road en sourdine. Un roman noir mais plein d'espérance, sans nostalgie aucune. Et on se dit quand même que ces 60s étaient tout de même une sacrée époque pour les allumés de musique, de sexe et autres paradis artificiels, comme on dit. Voilà pour aujourd'hui. Petit dernier rendez-vous si vous aimez la poésie et la musique. Un petit rendez-vous dimanche à partir de 19h30 à Oupia dans le Minervois, Poème Rock, ou le répertoire de d'Alain Bachung revisité avec Bernard Rock et Eric Pastor. C'est à l'affenage et vous pouvez réserver si vous le souhaitez au 06 80 47 46 78. 06 80 47 46 78. À dimanche peut-être, et sinon à bientôt.
À bientôt.
Merci Françoise, merci Henri. Émission en partenariat avec Cépage d'encre. Et à retrouver en podcast sur le site de la radio www.marseillettefm.com.
Bonjour, c'est Boulevard Désert, vous écoutez Radio Marseillette.
Salut, c'est Toine, vous êtes sur Radio Marseillette.
Listen to Radio Marseillette, you may hear the Christians on there.
Vous êtes bien sur Radio Marseillette, votre radio audoise.